ça c'est Supermax, ça c'est fabrication hollandaise. Il y en a plein de qualités, mais c'est ce que les gens consomment beaucoup en Guinée ici. C'est des super de Inowax qui viennent du Côte d'Ivoire. Ça c'est Supermax.
Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages.
Le voyage que vous allez entendre est une rediffusion.
Ça fait partie, entre guillemets, de la culture africaine. Ça fait partie de mon histoire. On ne va pas venir m'enlever parce que c'est fabriqué en Hollande. C'est complètement ridicule. Quand on va en Hollande, les Hollandaises ne s'habillent même pas en wax.
J'en ai beaucoup à la maison que je cousine. J'aime vraiment ça. Je me sens un peu en mode africain dedans.
Céline Develay-Mazurel, Laure Alary.
L'Afrique africaine, c'est pas imprimé en lui donnant des noms, en l'intégrant dans les pratiques sociales. Ça lui a donné une autre fonction que le simple vêtement qu'on porte pour se couvrir.
Bonjour à tous et bienvenue dans Un Monde de Wax, épisode 2. Pour ce second volet, on continue de suivre la route du wax, un tissu qui depuis 170 ans voyage de l'Indonésie vers l'Europe, puis en pleine période coloniale de l'Europe vers l'Afrique. Car c'est là, de Dakar à Brazzaville, en passant par Lomé, Abidjan ou Conakry, que ce textile imprimé et coloré a trouvé sa terre d'élection. Sur le continent, non seulement on le vend, on le coupe, on le coud et on le porte, mais aussi on le baptise et on l'adopte. Wax hollandais ou uniwax de Côte d'Ivoire, faux wax de Chine ou fancy d'Afrique, il y en a donc pour tous les goûts et toutes les bourses. Et c'est à la mode. Peut-être qui sait jusque chez les Hollandaises, même si pour l'heure, comme le rappelait à l'instant Natacha Bacot, la styliste parisienne née au Congo Brazza, la Hollande se contente de produire le fameux tissu. Une chose est sûre, et Natacha dit vrai, l'Afrique demeure en quelque sorte la patrie du wax, tant ce tissu fait partie de la vie de tous les jours de millions de personnes. Pour s'en rendre compte, il suffit d'ailleurs de feuilleter les pagnes comme on feuillette les pages d'un album photo du continent. Et c'est ce que nous allons faire avec Vladimir Cagnolari pour la suite de ce voyage que l'on reprend au coin de la rue, ici à Paris, toujours en compagnie du journaliste Soro Solo et vieux complice de Vladimir dans la boutique Coupe Splendeur, ouverte dans le 20e arrondissement il y a 20 ans par la styliste Paul-Élise Coissy.
Je fais du sur-mesure, mais comme c'est un peu grand, donc du coup, Médiel a fait un régime pour maigrir un peu. Donc j'essaye de retoucher pour serrer un peu pour elle, la cliente. Son mari viendra chercher son pantalon.
Le pagne a largement dépassé sa fonction de vêtement. Le pagne a une importante fonction sociale dans nos sociétés africaines, là, en tout cas celles que je connais de l'Afrique occidentale, on pourrait démultiplier les différentes manifestations où le pagne n'est plus le vêtement ordinaire qu'on va porter, mais qui va, on va dire, l'outil du lien social, de la représentation d'un groupe, le symbole de tout un groupe, de toute une promotion, de toute une famille, que ce soit les rituels traditionnels, les fêtes de génération. Parce que dans nos sociétés, la formation, l'éducation de l'individu se fait par classe d'âge. Et quand une classe d'âge arrive à une étape de son initiation, de sa formation en société, on organise un rituel pour présenter au public l'existence de cette génération qui arrivait à tel niveau de sa formation en tant qu'individu. Et cette génération va marquer cet événement par la fabrication spéciale d'un pagne au nom de leur génération. Comme par exemple chez les Évriers, qui est dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire, qui est Abidjan. Et cette génération va porter ce pagne-là, ce jour-là. Pareil, comment on appelle, en région de Senoufo.
Au nord de la Côte d'Ivoire maintenant.
Voilà, à l'occasion des funérailles d'une maman ou d'une belle-mère, eh bien, toute la famille dans les deux camps, eh bien, on va faire fabriquer un pagne spécial avec l'effigie de la maman, pour ceux qui ont de grands moyens, et on les garde pour que ce soit des archives à montrer à ses petits-enfants, à ses arrière-petits-enfants, pour dire voilà l'image de la tête de votre arrière-grand-mère. Et finalement, on ne les porte plus pour éviter de les user.
J'allais y venir parce que justement, on garde ces pagnes-là, surtout ceux qui sont de bonne qualité.
Parce que c'est vraiment de la bonne qualité. Ça n'a rien à voir avec maintenant. Moi, je vois bien les pagnes que ma grand-mère m'a donné quand j'ai eu mes 18 ans, ces pagnes, je les ai encore. Alors que j'ai 51 ans aujourd'hui.
Là, justement, tous ces pagnes qui sont là, parce que, en fait, ce qui se vend souvent le plus, ça reste des déclinaisons, des motifs qui sont là depuis plus de 100 ans maintenant. Et là, il y a des pagnes qui sont des pagnes d'églises, en fait.
Oui, tout à fait.
Ah, tiens, Saint-Louis. Mais, bon, Élise, Il y a Pagne avec Saint-Louis, là, le vieux, vieux roi des Français. Qu'est-ce qu'il fait là, lui aussi? Ça, c'est un made in Côte d'Ivoire.
Parce que y a des... pendant le moment de Pâques, tout ça, j'achète, il y a plein de gens qui viennent m'acheter ça. Ils viennent pour s'habiller dedans, pour aller au Lourdes, pour aller à l'épèrenage, tout ça. Au Fatima, il y a beaucoup qui me commandent ça.
Ils font le pèlerinage de Lourdes, de Fatima, ils viennent faire une tenue spéciale.
Oui.
Une famille va s'habiller dans le même pagne. Pour se distinguer, c'est la famille de tel M. Kofi, lui va avoir Saint-Louis, la famille de M. Conan va avoir Saint-Joseph, la famille de Yao va avoir Jésus. Et les familles se distinguent en fonction des motifs qu'ils portent. Et on va sur la place de la fête pour les festivités populaires.
Et d'ailleurs, tu fais les pagnes religieux, tu ne fais pas les pagnes politiques, parce que ça aussi, il y en a des pagnes politiques.
Ah non, non, je préfère ne pas faire la politique, parce que pour garder les très bons amis, il ne faut pas te mettre dans la politique. Je préfère.
La politique, c'est aussi un thème important dans la production de Wax. On a toute une série de pagnes à l'effigie d'hommes politiques, de chefs d'État. Anne Grosfillet, vous qui êtes anthropologue, qui avez publié plusieurs ouvrages sur le wax, dont le dernier s'intitule « Wax, 500 tissus », est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de cette exploitation politique du wax ?
Alors, au début, on le fait avec le wax, mais le problème, c'est que non seulement ça prend beaucoup plus de temps parce que le processus est complexe, et puis parfois, comme il y a le portrait photographique, on peut avoir des grandes craquelures dans le visage, donc c'est parfois...
Une de l'aise-majesté.
Et l'idée, c'est de le porter une fois pour une occasion particulière. Donc là, on n'est plus dans la recherche forcément d'un produit de qualité, mais on veut un imprimé avec beaucoup de couleurs. Donc ce sera une autre technique qui est utilisée, qui est le fancy, qui est uniquement de l'impression par sérigraphie. Et là, ces usines de fancy, il y en avait à partir des indépendances à peu près dans tous les pays africains. Donc c'était facile, ça encourageait la production locale et on pouvait en une semaine, voire 15 jours, produire un pagne.
Ce tissu, évidemment, il a été répandu avant les indépendances. Et donc au tournant des années 60, il y a aussi une accélération de l'histoire. Est-ce que le pagne en témoigne, le wax, comment il accompagne cette évolution-là?
Alors, je dirais que ce qui est très surprenant, c'est que l'indépendance, donc c'est vouloir montrer qu'on n'est plus dépendant de l'Occident et se détacher de cette colonisation. Et on a des chefs d'État, il y a des grands mouvements panafricains, et puis des chefs d'État qui vraiment veulent marquer cette rupture. Et ils le font, paradoxalement, le wax échappe un peu à ce courant. Et je prendrai le cas de ce qui était le Zaïre avec Mobutu, puisqu'il a supprimé les prénoms chrétiens. Il a participé à la promotion de la bacoste en supprimant en interdisant même le port de la cravate. Et en revanche, ça a été une des personnes qui a passé le plus de commandes à l'usine anglaise ABC.
Mobutu.
Pour lui, affirmer son identité africaine indépendante, c'était porter du wax fabriqué en Europe. Donc c'est très très paradoxal en fait. Il encourage les femmes à porter du wax et puis aussi il passe de très grosses commandes avec des pagnes à son effigie, allant jusqu'à 250 milliards de tissus pour une seule parade, c'est-à-dire il allait faire un discours devant une foule, 40 000 personnes, qui allait l'accueillir avec un complet, c'est-à-dire les trois pagnes, le grand pagne drapé, celui sur les hanches et puis le petit corsage, avec son visage pour l'écouter prononcer un discours.
Moi, Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, je jure d'observer la constitution et les lois de la République du Zaïre.
Je trouve très intéressant quand on porte un pagne à effigie comme ça, c'est que l'uniforme finalement vient du fait que tout le monde porte le même tissu, mais après la personnalité de chacun vient du fait que chacun fait faire son modèle sur mesure auprès d'un tailleur. Et donc, chaque personne aura un modèle de vêtements différent. Et ça, on ne l'a pas dans la notion occidentale de l'uniforme où tout le monde est habillé à l'identique. Dans le vêtement africain, on le retrouve vraiment à travers toute l'Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, etc. On a à la fois ce côté collectif qui est donné par le tissu et ce côté personnel de l'individualité qui s'exprime dans le modèle de vêtement qu'on a choisi.
Une formidable ovation, une véritable explosion de joie, impressionnant pour un occidental. La Côte d'Ivoire a salué Giscard à l'africaine en souhaitant « Aquaba à Giscard ». Bienvenue à Giscard.
Aquaba Végé, président. Valéry Giscard d'Estaing.
Tous ces peines-là sont une sorte de témoignage d'archives de toutes ces visites officielles depuis les indépendances. L'année où Giscard d'Estaing venait en Côte d'Ivoire, ben, il y a un pain Giscard d'Estaing avec Félix Foulbogny côte à côte sur ce pain imprimé. Quand De Gaulle était au Congo, il y a un pain imprimé avec De Gaulle, avec le président de l'époque ou le gouverneur de l'époque, partout. Congo, Sénégal, Togo, Bénin, Côte d'Ivoire, le Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa. Et de même, à l'intérieur de nos pays, tous les partis se font imprimer un pain avec les symboles de leur parti. Un pays comme la Côte d'Ivoire, le FPI a son pain, le PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire a son pain, le RDR a son pain. Bref, vous allez au Togo, pareil. Vous allez au Congo, pareil. Partout. Et avec, comment on appelle, les symboles du parti, mais aussi avec l'image du président du parti.
Mais quand les chefs d'État venaient en visite, ou bien qu'il y avait des pagnes avec la tête du chef de l'État, est-ce que les gens achetaient spontanément ces pagnes-là ?
Le gouvernement offrait une bonne partie de ces pagnes-là aux populations qu'on convoquait. On disait, on les invitait, mais ils étaient convoqués.
Ça avait valeur. Invitation un peu forcée, quoi.
Voilà, pour venir constituer la masse, le volume de la population qui va applaudir le chef d'État français qui est venu en visite pour lui montrer qu'on lui a réservé un accueil des plus chaleureux.
Mais, et spontané.
Et spontané, très spontané. mais en même temps, les populations avaient envie de porter ces pains-là parce que c'est une façon de se distinguer pour dire j'ai aussi le pain souvenir de cet événement, de cette visite officielle.
J'y étais.
Voilà, j'y étais.
Aujourd'hui, on fait des selfies. Avant, on avait le pagne de l'événement pour dire qu'on était dedans.
C'est plus de selfie là. Tu portes le pagne, tu es content. Ça, c'est une dame qui m'a envoyé de coudre. Ça, c'est pagne de Gbagbo. Ah.
Tu as fait voir. Et du coup, avec le médaillon, avec des lauriers, avec une photo de Laurent Gbagbo, bon, plus jeune quand même. Hein. Photo qui date de bien 20 ans maintenant.
Elle m'a posé le pagne et comme j'ai demandé une avance, elle m'a dit « Ah, je m'en vais, je reviens, je ne l'ai pas vu. » Et ça fait 12 ans que le pagne est là.
Donc tu as gardé, tu n'as pas touché?
Non. Parce qu'elle ne m'a pas donné l'avance.
Attends, quand même, on voit dessus, il y a le port, il y a les stations-service, il y a les routes, il y a les usines. Donc, c'est en fait, c'est les grandes réalisations, quoi.
Oui, toutes les réalisations qu'on voit imprimées sur le pagne autour de l'image, de l'effigie du président Gbagbo, quand on porte ce pagne-là, ça suggère que vous voyez toutes ces belles réalisations, vous voyez les infrastructures, comme cette image d'une grande autoroute, comme ces grandes usines, comme l'image du port, pour dire aux populations, voilà ce qu'il a réalisé. Alors que peut-être tout ça existait avant même que son parti n'existe légalement, avant même que lui-même devienne président légalement.
On a dit qu'on ne parlait pas politique.
Ouais, non, mais c'est la description du pagne. Pour dire, l'usage du pagne aussi était un outil de conditionnement psychologique. C'était un moyen de communication.
Et donc de propagande politique
aussi. Et de propagande politique, forcément.
C'est à chaque grand événement ici au Burkina Faso, il faut un pain pour marquer cet événement-là. Et il y a le 8 mars, il y a quoi encore, il y a FESPACO, il y a CIAO, tous les festivals là, ont leur pain.
Clo-Clo, ici le 8 mars c'est carrément un jour férié. Il n'y a pas beaucoup de pays qui font jour férié pour la Journée internationale de la femme. Et à chaque fois, on sort des pagnes du 8 mars.
Et comme c'est la journée des femmes, c'est leur pain. Approche-toi et puis va toucher un pain. Il y a les vendeuses là vont venir. Quoi.
Parce qu'il y a deux motos qui sont isolées seules comme ça.
Avec un vélo là. Mmh. On a étalé les pains dessus. Uh-huh. Tu les vois assis sous les bâtiments là. Mmh. Va t'arrêter là, fais semblant de toucher. Et puis quand elles arrivent, par exemple, il faut leur demander le fond vert. Le pain fond vert, c'est ça que tu cherches pour donner à ta madame qui est africaine aussi. Quoi. Tu vois qu'il y a une différence de prix. Bon, le plus cher, c'est-à-dire la couleur verte là, c'est certainement la couleur qu'a choisi la première dame, quoi.
Du pays.
Du pays. Donc, c'est toutes les femmes veulent être dans cette couleur-là. Alors, on monte les prix. Même si tu achètes le fond violet à 5 000 ou 26 000 pour madame, elle n'est pas très satisfaite, quoi.
Et tu dis, ça sème la discorde même dans les foyers.
Dans les foyers, parce que quand tu n'as pas ça, c'est comme une honte, quoi. Voilà, c'est comme ça va pas dans ta famille, le mari n'a pas les moyens. C'est pour éviter aussi les regards et les ondits. Parce qu'elles vont faire les tchandjoba, elles vont danser. Elles vont appeler les orchestres et puis elles vont porter leur pain. Le soir, elles dansent. Elles dansent, elles font les tours. Et c'est pour montrer ça.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous allez bien?
Oui, ça va.
Comment on sait à l'avance quelle couleur la première dame va porter?
Ça, on n'en sait rien. On suppose seulement la couleur qui manque, c'est cette couleur qu'on dit que la première dame va porter.
Ah, donc voilà. Dès qu'il y a un pagne qui devient rare, là...
Voilà. C'est cette couleur que la première dame va porter. C'est ce qu'on se dit, en tout cas.
Pourquoi c'est si important pour vous d'avoir ce pagne-là?
Parce que c'est la femme, la journée de la femme.
La femme, comme c'est fête de la femme, là, si tu n'as pas ce pagne-là, tu n'es pas content. Même si tu as pagne hollandais pour porter là, ça n'a pas de qualité par rapport à ça.
Il a dit que l'autre modèle coûte 7 000.
Vous êtes venu acheter le pain du 8 mars, monsieur?
Non, non, non. Pain du 8 mars, on m'a envoyé payer.
Non, c'est pas pour votre femme?
Ah non, je n'ai pas de femme, c'est pour ma tante.
Vous savez, le 8 mars, quoi qu'il arrive, il faut faire l'effort.
Bon, comme c'est pour le moment, on se dit que c'est tout à fait normal. On le fait sans arrière penser quoi. C'est avant tout nos mamans, donc bon. Ce qu'on peut faire de mieux pour elles, c'est les honorer à l'occasion de leur fête. Voilà.
Merci, monsieur.
Je vous en prie.
J'ai choisi la nuit, oh oui Maria tout. J'ai choisi le lit, oh oui Maria tout. Comme le premier soir, oh oui Maria tout. La nuit était noire, oh oui Maria tout. Ferme tes yeux, oh oui Maria tout. Serre-moi dans tes bras, oh oui Maria tout. Écoute ma voix, te dire le je t'aime. Oui j'avais peur que je t'aime, mais aujourd'hui je sais bien que je t'aime. Maria tout, Maria tout.
L'image qu'on peut avoir dans les années 80 de la femme habillée en wax, c'est la maman, c'est la femme respectable vraiment, et la jeune fille qui cherche un petit copain de manière légère ne va surtout pas s'habiller en wax à 20 ans parce qu'on va dire non, ça y est, elle est casée, on n'y touche pas. Donc quand on veut aller en boîte, quand on veut sortir, on porte surtout pas du wax dans les années 80. C'est une fois qu'on veut éloigner les hommes, mais en même temps que les autres femmes disent qu'est-ce qu'elle est élégante, qu'est-ce qu'elle est belle. Elle porte vraiment le dernier motif à la mode. Et donc cette population vieillit dans un continent de plus en plus jeune. Et Uniwax se dit, mais notre marché va vieillir et puis disparaître à la longue. Et c'est les étoffes artisanales qui vont participer au renouveau du wax. Ce qui est fou, c'est qu'à cette époque-là, il y avait un Malien qui s'appelait Chris Seydoux, qui revisitait, lui, les étoffes artisanales. Donc, Chris Seydoux, qu'est-ce qu'il fait? Lui, c'est un créateur malien, mais qui a travaillé à Paris et puis qui est ensuite venu travailler à Abidjan, qui était déjà une capitale un peu de la mode. Il a revisité le Bogolan, il l'a rajeuni, il en a fait des petites jupes, des tailleurs. Puis il a travaillé aussi avec le Bazin, avec d'autres, avec des tissages aussi de son pays. Et il s'est dit, mais finalement, on pourrait sortir de leur contexte traditionnel des étoffes artisanales et en faire des choses très belles. Donc là, on n'en fait pas n'importe quoi, on n'en fait pas des sacs, des maillots de bain. On les sort de leur contexte rural pour en faire des emblèmes de l'élégance urbaine. Et donc, Uniwax regarde ça, et notamment le directeur artistique, Patrick Liversin, Il se dit, mais tiens, on pourrait utiliser cette idée et puis surfer un peu sur cet engouement pour faire la même chose avec le wax. Il contacte 30 000 couturiers et il lance le ciseau d'or en 1987.
Un concours.
En disant, allez, lâchez-vous, en fait. Sortez des 6 yards qu'on porte des pieds à la tête, des 3 pagnes, en fait, que l'on coupe. Vous pouvez mélanger les tissus, associer plusieurs motifs, mettre de l'uni avec du wax, du jean, du lin, quoi, ce qui ne se faisait pas du tout à l'époque. Étonnez-nous, il faut que ce soit harmonieux, il faut que ce soit élégant. Et le premier lauréat sera Patéo. Et puis après, il va y avoir toute une autre génération avec des Gilles Touré, aujourd'hui Éloi Sessou et d'autres créateurs à travers la Côte d'Ivoire et puis aussi tous les autres pays. Et donc, il y a eu ce renouveau progressif du wax et ce rajeunissement de la clientèle.
Bonjour mesdames.
Bonjour.
Comment vous allez?
Ça va.
Moi j'ai l'impression que vous êtes en grande consultation. Il y a beaucoup de chemises qui sont étalées sur le canapé là. Et... vous êtes venu pourquoi spécialement chez Patéo?
Je suis venu acheter une chemise pour offrir.
Et pourquoi vous êtes venu chez Patéo plutôt que...
J'utilise les matériaux de chez nous. Et puis je trouve que ces coupes sont très originales.
Là, c'est une belle chemise. Une
très belle chemise indigo. On retrouve toutes les belles couleurs de l'Afrique. Quand on veut faire un beau cadeau à un homme qu'on aime ou à une femme qu'on aime, on vient chez Patéo.
Bon, monsieur va être content, hein, je ne sais pas, mais il va être content.
Oui, très content.
Okay. Merci beaucoup.
Merci.
C'est pas le même modèle, mais j'ai déjà ça.
Pâté, là on est dans la boutique, chez vous à Trècheville. Vous avez beaucoup travaillé avec Uniwax. De quelle manière vous avez travaillé avec eux?
J'ai commencé à travailler avec Uniwax depuis 1985. Et jusqu'à aujourd'hui, je travaille avec Uniwax. Bon, c'est les fabricants de wax ici. Je suis connu, c'est par rapport à eux aussi. J'ai été le premier ciseau d'or en 1987. Quand ils ont lancé le concours, le thème c'était l'élégance, l'harmonie et la créativité. Tu dois créer quelque chose, mais...
Que avec du pan d'Uniwax.
Voilà, mais tu peux ajouter un pourcentage de mélange de nos tissus, mais vraiment très léger. Et moi, j'ai créé mon modèle dans un pan qu'on appelle l'oiseau rare. J'ai coupé les oiseaux, je les ai joints, hein, les becs se croisent, non? C'est comme si les oiseaux se regardaient. Et ça a été l'original. Bon, donc du coup, j'ai été le premier. Voilà, à l'époque, c'était pas petit, hein. Et après ça... dans leur règlement, celui qui gagne le ciseau devrait habiller Miss Côte d'Ivoire. Donc j'ai habillé Miss Côte d'Ivoire pendant 10 ans, de 1988 à 1998. Il y avait 33 Miss. Et on devrait faire la tenue des jours et la tenue des soirées. Donc il y avait 66 tenues à faire. Les Miss étaient toujours en paille.
Pour vous qui êtes créateur, là c'est quand même important d'avoir une usine à Abidjan même, où vous pouvez aller chercher directement votre matériel.
Jusqu'à aujourd'hui, je fais partie des couturiers qui arrivent à Uniwax. Je rentre dans l'usine, je choisis les pagnes que je veux, on me fait les prix d'usine et puis je travaille avec. Voilà. On a gardé ces relations-là, ça y est là toujours.
Est-ce que vous influencez même du coup leur choix de pagnes, ceux qui produisent?
Oui, à un moment donné, il y avait M. Liversé me consultait des fois par rapport aux motifs. Et ça a aidé beaucoup à ramener les pagnes à des petits motifs, parce qu'à l'époque, le motif commençait depuis le début du pagne jusqu'à la fin, en haut.
Ah ouais.
Donc c'était difficile de couper. Quand vous voulez le couper, le dessin bouffait tout le pagne. Vous ne savez pas quel modèle faire. Mais après, on a ramené le pagne maintenant comme un tissu, mais avec des petits motifs. C'est ce qui est difficile dans le pagne, justement. Si vous n'êtes pas capable de travailler comme ça, le pagne, vous ne pouvez pas. Voilà.
Savoir travailler les motifs, quoi.
Savoir travailler le motif. Et transformer ce pagne sans le transformer, il faut toujours garder le pagne comme s'il n'avait pas été coupé. Voilà. C'est ça le travail du pagne.
Il y a plein de photos où vous êtes en compagnie de chefs d'État qui portent vos habits.
Bon, on va dire que c'est pas fait exprès. Dans la logique, nous travaillons pour tout le monde. Mais comme c'est des modèles, si on a la chance qu'ils portent nos vêtements, tant mieux.
Et si vous me montriez une photo du président guinéen Alpha Condé avec le premier ministre éthiopien, et ils lèvent tous les deux les bras, je crois qu'ils sont en meeting à l'extérieur, et ils ont tous les deux vos chemises. Et puis il y a Paul Kagame, il y a Henri Colombédier qui est devant nous. Ici là, Jacob Zuma. Pourquoi c'est important que les présidents s'habillent avec des vêtements africains?
Bon, d'abord l'Afrique se pourrait déjà. Ils sont venus pour gouverner l'Afrique. Donc en principe, ça devrait être naturellement nos vêtements qu'ils devraient porter. Voilà. En réalité, les chefs là, ce n'est pas de leur faute. Très souvent, ils sont bloqués. Où il y a une espèce de barrière.
Si je comprends bien, du coup, c'est que si par exemple vous allez proposer vos chemises, vos vêtements pour un chef, les conseillers vont dire ah non, le chef ne peut pas porter ça.
Non, il ne porte pas ça, non. Non. Ou bien le week-end, ou bien à la maison. C'est ça le problème vraiment. Pour d'abord gouverner l'Afrique, il faut d'abord commencer par développer l'Afrique. Le développement de l'Afrique passe aussi par consommer ce qui est fait en Afrique.
Mathéo, il a vraiment un parcours exemplaire. C'est un enfant de 9 ans en fait, qui quitte le Burkina Faso et qui arrive à Abidjan et qui se dit « L'oncle qui m'a amené ici ne peut pas me payer l'école, il va falloir que je commence un apprentissage, qu'est-ce que je vais faire ?» Et donc il se promène la nuit, il voit des ateliers de tailleurs là, qui finissent à la machine à pédales et il se dit, le lendemain, il dit à son oncle, amène-moi chez un patron. Je veux commencer la couture. Donc, il a appris, comme on dit, sur le tas, petit à petit. Et puis, aujourd'hui, il a la tête vraiment d'une grande chaîne de prêt-à-porter. Et il a profité finalement de cette notoriété qu'il a eue par Uniwax pour dire, finalement, tout cet argent que je gagne d'abord grâce au wax, je vais l'investir pour faire la promotion des artisans. Alors, c'est à double intérêt, parce qu'il s'est rendu compte qu'au début, quand il travaillait avec de l'Uniwax, n'importe qui pouvait recopier le modèle, acheter le même pagne et faire une chemise style Pateo chez son tailleur de quartier. Donc, c'était un peu la rançon du succès. Dans un premier temps, ça fait plaisir. Et puis après, on se dit, on a aussi envie que les gens consomment du Pateo. Donc, il l'a fait pour cette raison-là. Et puis aussi pour se dire, mais moi, j'ai tout ce patrimoine. Je parlais tout à l'heure du Burkina Faso. Il y a le Danfani, ce tissage d'abord créé par les hommes et puis aujourd'hui qui est reproduit par les femmes. Et aujourd'hui, il a créé ses propres dessins, ses propres motifs, à la fois qui sont tissés au Burkina Faso, qui sont teints en Côte d'Ivoire. Et donc, il a fait beaucoup de chemises et aussi pour hommes et aussi de vêtements pour femmes en participant à la promotion des artisans. Et aussi, il est très, très célèbre parce que c'est lui qui a habillé le président Nelson Mandela d'Afrique du Sud. Donc, c'était quand même une très grande fierté. Et voilà, le fait que Nelson Mandela s'habille avec un produit totalement africain et que ce soit par ce petit gamin qui a commencé à 9 ans comme ça, c'est vraiment une très belle réussite du Made in Africa.
Si proche, écoutez, vous voyagez.
Comment ça fonctionne ces métiers-là?
Elle est en train de faire la trame comme ça pour pouvoir utiliser.
On prend les bobines de fil en fait.
Voilà, on prend les bobines de fil, on fait un rouleau avec des petits tubes pour pouvoir mettre dans la navette. qui va servir maintenant avec les pédales qui montent, qui descendent, et ça fait le tissage comme ça.
Ça, tous les fils qui sont tendus loin, voilà. Parce que là, il y a peut-être 10 mètres de fil.
Voilà, l'ensemble des fils longs qui constituent la longueur de pain qu'on va sortir. C'est ça qui est la chaîne.
Le fait que ce soit justement que du coton, du Burkina, c'est aussi important pour vous, puisque bon, c'est ce que disait le président Sankara autrefois, qui disait qu'il n'y avait pas un fil de son costume qui ne venait pas du Burkina.
Consommons burkinabé, c'est la devise. Et on apprécie très bien parce que ça fait une chaîne de valeur. Les cotonculteurs gagnent, la filature gagne, les femmes qui tissent gagnent, les couturiers gagnent. Et ça contribue vraiment à l'économie.
En Afrique, et pas qu'à Ouagadougou, le Made in Africa a donc fait du chemin. Jusque dans la tête, on l'a entendu de Paté Ouédraougou, ou Patéou, ex-roi des coupeurs de wax qui désormais se tourne vers les textiles teints, ou tissés du continent. Aujourd'hui, à l'heure où 90% de la production de pagne imprimée vient d'Asie, Patéou développe donc ses propres tissus et collections. Des collections que l'on retrouve dans plus de 15 boutiques en Afrique, de Luanda à Kinshasa, en passant par Dakar, Bamako et Abidjan bien sûr, qui en compte pas moins de 6. Retour à Abidjan dans les ateliers de Patéou.
Ici par exemple, ça, c'est une façon dans le pagne.
Ah, ça c'est du pagne tissé main.
C'est pas une tissé. Quand vous allez à Ouaga, il y a un endroit qu'on fait les tissages, hein, les femmes qu'on a regroupées. Ça s'appelle Patéou. Tout le monde sait que ça, c'est un modèle Patéou. D'ailleurs, j'ai fait les motifs, je les ai dessinés pour les donner. Donc, il ne faut que ça. Et à l'époque, on ne pouvait pas vendre à quelqu'un.
Ah oui, c'était que pour vous, quoi, qu'elle tissait.
C'était que pour moi, voilà. Bon, mais comme il y avait la demande et que ces bonnes dames ne travaillent pas que pour moi, j'ai dit non, pour qu'elles puissent aussi développer leur affaire, peut aussi tisser pour les autres. Voilà. Voilà, ça, c'est ça. Vous voyez.
Paté, on est dans l'atelier là, il y a beaucoup de jeunes gens qui savent faire.
Ici, c'est divisé en plusieurs secteurs. Hein. Vous avez ceux qui font la coupe, ensuite ceux qui font la couture. Après la couture, il faut aller à la boutonnière, ensuite au repassage.
En tout cas, il y en a du monde ici. Hein. Il y a combien de personnes qui travaillent ici?
Cinquantaine, c'est ça. Peut-être quelque chose comme ça.
Ce tissu là, c'est quoi?
C'est le voile de coton, mais teinté. Vous voyez, nous, on travaille avec les matières. Tout, à l'origine, tout ce qui vient ici, c'est blanc. Tout blanc. On indique les couleurs à faire. L'indigo. Il y a les nuages. Il y a les mouchetés. Il y a les mandelas. Tout ça, c'est le nom des teintures. Voilà, quand on dit à la dame, on veut des mouchetés, elle nous fait des mouchetés.
Ah, ça, c'est des chemises très longues.
C'est porté très long.
Presque jusqu'aux genoux, en fait.
Voilà, plus que les genoux, voilà, c'est la tendance. Les jeunes aiment beaucoup.
C'est un tissu qui est d'un bleu ciel très clair.
Donc, ça, c'est fait en lin, mais il y a toujours un rappel d'une couleur locale. Nous avons aussi des choses assez magnifiques qu'on peut montrer au monde. Voilà. Mais le tissage vient de partout. Hein. On a le Kinté du Ghana, le Pain Baoulé, qui est le centre de Côte d'Ivoire. Nous avons aussi les tissages qui viennent du Sénégal, un peu de l'indigo qui vient un peu du Mali, partout. C'est-à-dire que nous ne travaillons qu'avec ces matières. Voilà. Avec le pain, je ne pourrais pas arriver à ce niveau, ce n'est pas possible. Ouais. Maintenant, j'ai une matière qui est différente de ce que je fais. Donc, ceux qui veulent aiment cette matière viennent chez Patéou. Voilà. Alors, quand on veut le pain, on va chez tout le monde.
Là, on est au Sénégal. Ça, c'est un tissage manjak du Sénégal. Dans chaque pays a son savoir-faire. Il y a des sublimes tissus au Ghana. Et là, on a au côté du Mali. Ça, c'est...
C'est du Bogolan, ça, je
Bogolan,
crois.
Ouais. Le travail aussi avec les mélanges de soie. Là, la robe du Soran Kente.
C'est du traditionnel à Caen.
Exactement. Très beau. Moi, je le refais façon moderne. Les couleurs, je les choisis parce qu'ils travaillent avec quelques artisans là-bas.
Un manteau avec une ceinture.
Exactement.
Les coloris sont bleus, jaunes.
Ça fait très parisien. Et là, c'est un blouson en kente aussi. Et c'est tout doublé de soie. Donc ça, je crois que ça vaut le coup de montrer ça aux yeux du monde, au lieu toujours de nous imposer le fameux wax. C'est pas parce que tel star a mis le wax et quand le wax devient non, j'ai dit non, c'est pas comme ça.
Nous voilà à présent de retour à Paris, dans l'atelier du créateur Iman Aïssi. Un endroit, on l'a bien compris, où l'on ne trouvera pas le moindre centimètre carré de wax. D'abord danseur au Cameroun, puis mannequin pour les plus grandes maisons parisiennes comme Dior ou Givenchy, Iman a ensuite décidé de renouer avec sa passion, la couture, la haute couture. Et depuis, de Rome à Paris, jusque dans les Fashion Week Afro, il présente ses collections qui convoquent autant la pureté des coupes de la grande couturière française Madeleine Vionnet que les savoir-faire traditionnels de l'Afrique sans wax, on vous dit.
Quand on parle de la mode du fashion afro, c'est le wax. On parle de la mode des designers africains, c'est le wax. Là, je suis désolé. Je crois que c'est une manière de brader le savoir-faire africain. Déjà, l'Afrique, c'est pas un pays, c'est un continent. Montrez-nous aussi autre chose. Il n'y a pas que du wax. C'est pas tout le monde qui met du wax. Il est temps que l'Afrique revoie certaines choses, qu'on fabrique notre propre lobby de luxe. Donc ça, pour moi, ça, c'est le luxe, parce que c'est doublé de soie, tout est fait minutieusement à la main et tout. On est dans le luxe, là.
Ouais, il y a aussi du raffia.
Ah oui, ça, c'est du raffia, mais depuis rose. Aussi,
je le fais venir du Cameroun ou du Gabon ou du Madagascar, dans l'état brut, dans neutre. Après, je fais les couleurs moi-même.
Ah, c'est très beau, parce que
c'est très noble.
C'est pas sans rappeler, d'ailleurs... notamment les tenues qui accompagnent les masques, où il y a souvent du raffia comme ça autour, sur les manches.
Donc vous aviez tout dit, vous voyez que l'Afrique, il y a de quoi faire.
En fait, ce qui vous fatigue avec le wax, hein, si vous passez l'expression, c'est que finalement, ça étouffe, ça prend tout le panorama et on ne voit pas tous ces trésors artisanaux qui existent en Afrique.
Le meilleur exemple que je peux prendre, si je dirais le wax, c'est comme le franc CFA, peut-être que c'est un peu beaucoup. Au lieu de nous aider à avancer, et ça tue un peu et l'économie du pays et le savoir-faire surtout. Pourquoi pas créer des usines de tissage ici sur le Gobelin, sur le Kunté, hein? Pourquoi seulement imposer le wax? Les usines de tissu de wax en Afrique, c'est bien joli, c'est bien beau. Mais où sont nos tissus d'origine? C'est comme s'il disait que la dentelle de Calais est camerounaise, parce que le Camerounais est trop porté. Mais bon, ces trucs de wax, moi, ça me sort de partout. J'en peux plus du wax. Mais bon, je respecte, parce que même ma mère a mis du wax. Je ne vais pas faire la guerre à ma mère parce qu'elle met du wax. Ça, c'est de son choix.
Et d'ailleurs, elle ne vous a jamais dit, mais mon fils, tu ne veux pas me faire un petit ensemble pour moi ou...
Ah, ça, c'est... ça, c'est niette, c'est non. Nada.
C'est le wax que j'ai amené. Vois ça, c'est il y a rose, il y a bleu, tout est mélangé là-dedans. Parce que j'ai une cliente aussi qui vend les wax. Quand elle a des bons tissus, elle m'appelle, je viens, je prends. Donc dès que je prends, je me dirige directement chez Youssouf. Il fait souvent la création. Les wax, là, on peut faire en pantalon, veste, en jupe courte, tout ça, là. On peut faire tout, jupe mini, oui. En robe simple, robe du soir, on peut faire avec ça aussi.
Le wax, c'est plus porté en Guinée, c'est le wax. Malheureusement, on n'a pas de wax guinéen ici. Les Guinéens fabriquent aussi du lépi, les pains traditionnels. On appelle ça aussi lépi.
À l'heure, là, la tenue africaine, on porte partout. Même en Europe, les gens portent ça maintenant. On va à la télé, les grands couturiers, les trucs. On fait maintenant les wax en tout. Tu peux porter en tenue de soir, en veste, en tout. C'est ça.
Le wax, c'est ce tissu qui vient de l'extérieur, qui est profane et qui en partage finalement dans toutes les cultures. On peut porter du wax qu'on soit ivoirien, malien, comorien aujourd'hui, parce que le wax a vraiment étendu...
son aire d'influence, quoi.
à travers toute l'échelle et même dans les diasporas. Et c'est justement là qu'est sa force et sa dimension panafricaine. Et pour moi, ça crée aussi une légitimité, puisque même quand on est occidental, on peut porter du wax, puisqu'il appartient aussi à cette histoire en partage. Le fait qu'il vienne d'ailleurs fait que finalement, c'est pour moi le seul tissu qui finalement peut servir de support de projection identitaire à toutes les cultures africaines, parce qu'il est profane aussi. Donc on peut le découper, on peut en faire ce qu'on veut. Ce ne sera jamais un sacrilège d'en faire un sac ou d'en faire un short ou un petit haut. Alors qu'effectivement, on ne va pas découper un quintet royal. On ne va pas en faire n'importe quoi. Il y a des choses à respecter. Donc c'est ça vraiment la force du wax. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est devenu le tissu emblématique des populations noires africaines et des diasporas, un peu un étendard culturel. Donc c'est pas pour réduire l'Afrique et le textile africain au wax, mais c'est parce qu'aujourd'hui c'est le seul tissu qui peut justement le faire sans choquer personne. L'Afrique finalement est à la mode, mais finalement les Africains pas trop. C'est-à-dire que la plupart des marques, on peut citer quelques noms puisque ça a été officiel, comme Agnès B, comme Jean-Paul Gaultier, vont utiliser le wax dans leur collection, mais ils vont utiliser du Vlisco. Donc c'est logique puisque c'est le produit de luxe et on se positionne dans une gamme de luxe,
de haute couture,
mais en même temps ils surfent sur cette idée de l'Afrique à la mode. Et je trouve dommage de ne pas travailler avec des usines africaines. Alors, on l'a bien dit, il y en a de moins en moins, mais celles qui subsistent font un produit de très grande qualité. Il suffit de se lancer, on a des usines qui savent répondre à des commandes avec un produit de qualité. Et parfois, on préfère soit travailler avec les Hollandais où la qualité est suprême, soit malheureusement aussi beaucoup avec la Chine.
Et il y a des grands couturiers qui travaillent avec du wax chinois.
Pas des grands couturiers, mais beaucoup de marques, et notamment des marques de créateurs issus des diasporas. Et c'est ce qui me gêne le plus, finalement, parce qu'ils se disent créateurs africains, on les voit dans les Black Fashion Week, on les voit partout dans les magazines, c'est la nouvelle génération, c'est l'Afrique qui s'affirme, qui s'émancipe, etc. Et puis, finalement, ils valorisent le tissu de ceux qui ont... désindustrialiser le pays de leurs parents ou de leurs grands-parents. Donc je dis attention, c'est très pervers le message que vous envoyez. Il vaut mieux travailler finalement du jean que travailler du wax chinois, parce que le message que vous envoyez, il est totalement inverse de ce que vous avez en tête.
Jean-Louis Menudier, PDG d'Uniwax, en Côte d'Ivoire depuis 25 ans. On va regarder notre nouveau produit qui vient d'être lancé il y a quelques semaines, qui est le pagne à la demande, où on peut choisir son pagne en ligne avec son smartphone, avec son ordinateur, à la maison, au bureau, etc. Personnaliser totalement ses couleurs, introduire un médaillon, introduire une photo, introduire 5 médaillons avec 5 photos différentes pour mettre toute la famille, si on veut, sur un pagne pour célébrer un mariage, un anniversaire, etc. Tout type d'événement. Ou tout simplement, commander un pagne que l'on connaît, mais dans des assortiments de couleurs qui n'existent pas sur le marché.
Qu'est-ce qui vous a donné cette idée ?
D'abord, l'innovation, se différencier de ce que fait là aujourd'hui la concurrence, se sortir de la zone de risque avec les copies qui s'améliorent. Jusqu'à aujourd'hui, aucune usine n'était capable de le faire en dessous d'une certaine quantité. Le minimum était d'à peu près 3 milliards en général. C'est quand même énorme, si vous voulez, en termes d'investissement pour celui qui veut organiser l'événement. Et avec ce procédé-là d'impression digitale du panier à la demande en customisant son produit, le minimum est de 2 yards, c'est-à-dire 1,80 m. Donc c'est un produit qu'on peut dire de type fancy, impression directe.
Sans cire.
Sans cire. Donc pour une utilisation en général, pour des occasions bien précises, la plupart du temps, on aura des commandes bien sûr de gens qui auront des variantes spéciales par rapport à leur goût, leurs envies. Mais pour beaucoup, ce sera lié à une célébration d'un événement.
Donc là, elle est en action la machine.
Elle est en train de démarrer, là. Elle est en train de démarrer. Et là, ils vont commencer à imprimer.
Donc c'est quand même supervisé par monsieur qui est là.
Oui. Donc il voit toutes ses commandes arriver sur l'écran.
Et il sort ici en fait.
Le tissu va sortir dans quelques instants ici.
Ah oui.
Ah, donc il y a l'impression et les photos donc, que les gens ont eux-mêmes choisi pour les mettre dans les médaillons.
Le projet nous a permis aussi de sortir un petit peu des sentiers battus, c'est-à-dire d'introduire des couleurs qui n'existaient pas dans le domaine du pagne, donc des couleurs un peu flashy. Et la cible, évidemment, c'est la jeunesse dans ces cas-là. Les jeunes seront extrêmement intéressés par des roses qui pètent, des jaunes aussi très, très vifs, etc., des fuchsias, des choses qui n'existaient pas pour l'instant dans le domaine du pagne. Celui-là, tu as pris un pagne avec seulement une écriture, vous voyez, sur le pagne.
Bonne fête, maman, voilà. Plus le prénom.
En offrant le pagne. On va voir le suivant, ce que ça va être. Voilà, vous voyez, c'est des petites quantités. Là, c'était apparemment 1, 2, 3, 4 yards.
C'est « Je t'aime tellement » sous le visage d'une jolie jeune fille.
Un message d'amour avec un dessin qui fait penser au paradis, un peu.
Mais à la Saint-Valentin, vous n'allez pas pouvoir suivre.
On va avoir des problèmes, c'est sûr.
Le wax, il a un ancrage culturel très très fort parce que il commence à être ancien finalement. Hein. On parle de la fin du 19e siècle. Et donc, c'est un tissu qui a été transmis de génération en génération. Et aujourd'hui, par exemple, les jeunes filles vont porter un tissu qui leur évoque leur grand-mère. Il lui reste une photo, par exemple, de leur grand-mère ou de leur grand-tante. Et avec cette photo, parfois en noir et blanc, elles disent « Oh là là, regarde, c'est ce vieux pagne, mais voilà, mais c'est fleur de mariage, ou... mais je vais l'acheter parce que ça me rappelle finalement ma grand-mère ou la famille, ce pagne où il y a toutes les poules avec les petits poussins et les œufs. Ma grand-mère à Kigali, c'est la seule photo que j'ai où elle me tient dans les bras et puis voilà, je vais acheter ce tissu. » En pensant à elle. Donc, il fait partie de cette histoire de famille. Ouais, on est vraiment dans la transmission et dans la tradition, finalement. Et c'est un tissu, donc c'est quelque chose qu'on manie. Quand, par exemple, vous avez les familles les plus aisées qui ont leurs enfants qui partent faire des études en Europe, la maman va toujours donner un pagne à sa fille pour rester à la maison, pour l'attacher, voilà, où elle sort de la douche, ou bien en été, elle se drape dedans. C'est toujours le tissu du lien, finalement, et ce qu'elle va leur laisser. Elle va dire, tiens, tu vois, celui-là, il vient de là, ou voilà pourquoi je te donne celui-ci particulièrement. Donc il fait partie finalement oui, d'une tradition, mais inventée, parce qu'à l'origine, c'est un produit qui n'a aucun ancrage traditionnel.
Un monde de wax, c'était un voyage en deux épisodes de Vladimir Cagnolari. Merci à lui. Merci aussi à Anne Grosfilet, auteure de Wax 500 tissus paru aux éditions La Martinière. Anne Grosfilet sera pour info à Abidjan pour présenter son dernier livre à la FNAC Cap Sud le 23 octobre à 18h. Merci à Claude Ndjigambay alias Tonton Clo-Clo à Ouaga et à Germaine Compaoré ainsi que l'association Tiga Wende des tisserandes de Ouaga. Merci à Hortense Vol et la styliste Natacha Bako, à Youssef Kal qui a reçu Raphaël Constant à Conakry, à Paul-Élise Kouassi, Soro Solo, Iman Ayissi et Jean-Louis Ménudier d'Uniwax. Vous retrouverez leur site et d'autres infos sur la page de l'émission Si loin, si proche. Céline Develay-Mazurel, Laura Larry, Vladimir Cagnolari, on vous souhaite de beaux voyages à l'écoute de RFI. À la semaine prochaine.
Retrouvez Si loin, si proche quand vous le souhaitez en vous abonnant à notre podcast sur la page de l'émission sur RFI.fr.
En 2019,